Joël Berker dans les studios, un point d'histoire grâce à Joël Berker. C'est toutes les semaines dans ce magazine. On est aujourd'hui le 12 mai 1706. Joël Berker, bonjour.
Bonjour.
C'est un rapport d'un événement naturel qu'on voit surnaturel à l'époque.
Voilà, tout à fait. Hein, c'est cette ambiguïté. D'un côté, c'est un événement naturel, donc qui arrive régulièrement, et par ailleurs, c'est vrai que ça sème la panique. Donc voici l'explication, le texte. La plus grande phase de cette éclipse approcha de 11 doigts à un sixième près.
Un peu confuse l'explication.
Un peu
là.
Confuse, voilà. Donc il faut être scientifique. En toutes les villes de Languedoc, l'air s'obscurcit de sorte que l'on fut obligé d'allumer les chandelles pour lire et pour travailler et de quitter le travail à la campagne. Le peuple qui en ce jour était en grand nombre dans les rues fit des exclamations et donna des marques d'une grande épouvante. Les animaux même sentirent cette éclipse.
On commence... Chez les scientifiques, hein, je rappelle qu'on est dans le siècle des Lumières, on commence à comprendre tous ces phénomènes.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même une part de la population qui s'intéresse à tous ces événements et qui essaie de les comprendre et évidemment de prévoir éventuellement, donc par le mouvement des astres, quelles seront les prochaines éclipses de soleil ou de lune. Donc c'est vrai qu'il y a cette communauté scientifique qui observe, malgré d'ailleurs l'opposition souvent des religieux qui ne veulent pas que l'on comprenne le monde, hein, puisque donc il y a une philosophie derrière. Donc mais c'est gens de science qui eux font les rapports et qui observent et qui s'échangent les informations, et c'est comme ça que l'on peut voir à quel moment il y a comment ces phénomènes, et par ailleurs là où ils sont visibles, et pouvoir les comparer.
Par contre, vous le disiez, on ne cherche pas à cette époque à ce que le peuple comprenne, et c'est presque, j'allais dire, avec du recul, dans l'intérêt de l'Église.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que on est au début du XVIIIe, mais le XVIIIe siècle est très significatif justement en la matière. On va avoir justement cette Église arc-boutée justement sur l'histoire, sur les sociétés anciennes, qui une société qui est immuable et avec des ordres figés. Et on ne cherche pas justement, on interdit la connaissance, on interdit les mathématiques, et donc les phénomènes s'explique tout simplement par la présence de Dieu. Ce qui fait évidemment que c'est en opposition avec cette classe de scientifiques et avec ces gens qui, cherchent à diffuser cette connaissance et à tous les niveaux.
Par contre, est-ce qu'il s'agit d'un vil calcul de la part de l'Église, ou est-ce qu'ils sont persuadés que c'est l'œuvre de Dieu, que ça n'est pas une affaire d'homme et qu'il ne faut pas chercher à comprendre?
Ben, je crois que ça détruit quand même le fait qu'il y ait des personnes qui cherchent à comprendre ces phénomènes, qui grâce aux mathématiques justement essaient de voir quelle est l'influence des vents sur le temps, essaient de prévoir un peu tous ces mouvements. Il était évident que ça remet en cause une partie évidemment des concepts religieux, ce qui fait qu'évidemment l'Église voit là une perte d'autorité, justement parce qu'on conteste évidemment la parole.
Et forcément, quand ça rend service, on a tendance à y croire un petit peu plus facilement.
Voilà, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que évidemment dans le peuple où se trouve le curé, que le curé ne croit pas en des manifestations surnaturelles. Et la plupart de la population, évidemment, est dans cette optique.
Alors au XVIIIe, le siècle des Lumières, on l'a dit, on dit que c'est la connaissance et non le statut social qui fait la valeur des hommes. D'ailleurs, en 1741 va apparaître la première encyclopédie.
Oui, à partir des années 1740, il y a ce projet de faire un résumé, un condensé de toute la connaissance du monde depuis des siècles. Et évidemment, c'est un ouvrage de grande ampleur, un travail extraordinaire. Et dès 1751, quand va paraître le premier volume, donc qui est signé par D'Alembert, où D'Alembert explique justement la philosophie de ce travail, automatiquement l'Église va interdire justement la production, la sortie de cet ouvrage, et notamment les jésuites qui vont s'opposer, qui vont obtenir de la part du roi l'interdiction de la publication et même l'interdiction de la lecture de ce texte d'Alembert.
Encore une fois, ce qui est dur à comprendre, c'est est-ce que de la part de la noblesse, du roi, de l'Église qui s'associe contre la diffusion des connaissances, est-ce que c'est véritablement de leur part la croyance que le statut social est une œuvre de Dieu et qu'on ne doit pas y toucher, ou est-ce que encore une fois ils ont peur de leur privilège, perdre leur privilège?
Oui, je crois qu'on est quand même dans un siècle où on a vu revenir notamment la noblesse aux affaires, et c'est vrai que il y a une question, enfin des questions d'intérêt derrière tout ça, parce que si la population accède à la connaissance, il est évident que ils perdront, la noblesse perdra de l'autorité et les l'Église également. Donc il y a vraiment un calcul en disant que la société ne doit pas bouger, puisque donc c'est l'ordre naturel des choses, il y a des hommes supérieurs, il y a des hommes inférieurs, alors que bon, si on donne la connaissance, qu'on la distille un peu partout, il est évident qu'on va changer cet ordre des choses.
En tout cas, ce seront les philosophes, les scientifiques qui auront raison, puisque 60-70 ans plus tard, ce sera la révolution.
Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a un aveuglement justement des ordres privilégiés à ne pas voir cette population qui souffre, qui est au bord de l'explosion à cause justement des impôts et puis de la précarité de leur existence. Et c'est vrai que si derrière il y a des idées nouvelles, des idées d'égalité qui commencent à naître, de développement possible du peuple, bien on est proche de l'explosion.
Merci Joël Berker, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.